Radio Okapi.
Une situation désastreuse sur les plans sécuritaires, politiques, diplomatiques et socio-économiques du régime Tshisekedi. C'est le bilan que dresse Martin Fayulu pour l'année 2024. Le président du parti Essidé l'a dit dans un message à la nation publié ce lundi sur les réseaux sociaux. La société minière TSM vole au secours des prisonniers de la prison centrale de Kindu-Maniema. Ils ont reçu un lot important des vivres et non-vivres pour célébrer la fête du nouvel an dans la quiétude. L'invité de Radio Okapi s'appelle Boniface Kabongo. Il est député provincial, élu de la ville de Kalemi. Il revient sur sa question orale adressée au ministre provincial de l'Intérieur à propos de la situation sécuritaire dans cette ville du Tanganyika. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. D'abord, cette réaction du chef de l'État de la RDC après la mort hier, 29 décembre, de l'ex-président américain Jimmy Carter. Félix Tshisekedi exprime sa compassion au peuple américain et à la famille de feu, le 39e président des États-Unis. Il rend hommage à cet homme d'État exceptionnel qui a marqué l'histoire, particulièrement par ses actions en faveur de la démocratie, de la paix et des droits humains. Ses valeurs demeurent une source d'inspiration pour le monde entier. À travers la Fondation Carter, installée aussi à RDC, son engagement en faveur de la paix et de la démocratie marquera à jamais l'humanité. L'opposant Martin Fayulu dresse un bilan désastreux de l'année 2024 en ce qui concerne la situation sécuritaire, politique, diplomatique et socio-économique du régime Tshisekedi. Le président du parti Essidé l'a dit dans un message à la nation publié ce lundi sur les réseaux sociaux. Il appelle le peuple congolais à se mobiliser pour dire non au changement de la constitution, non à la présidence à vie en RDC. Un extrait du discours de Martin Fayulu nous est proposé ici par Alain Irung.
Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud de Kivu. Tout cela sous les regards impuissants de ce qui reste de l'État. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mobondo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante.
Martin Fayulu donne l'impression d'être un homme du passé parce que dans son discours, il brosse une situation du pays qui correspond exactement à ce que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait trouvé en 2018 lors de sa passation du pouvoir. C'est en ces termes que réagit Jean-Thierry Monsenepo, cadre de l'Union sacrée de la Nation, au message de Martin Fayulu à la Nation. Pour lui, le président de l'Essidé oublie que la RDC a eu à enregistrer des éléments positifs sur le plan social, notamment la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et de l'enseignement. Jean-Thierry Monsenepo est joint par Guy Maté.
Il dit que l'armée est abandonnée alors que pour la première fois, il y a une loi de réhabilitation sur la loi qui apporte non seulement les moyens mais aussi le suivi de notre armée. Il oublie aujourd'hui qu'il y a énormément d'avancées sur le terrain grâce à la détermination de nos troupes. Il oublie également que la diplomatie a eu à faire un bond avec notamment le fait que de manière claire, l'opinion nationale et internationale sait que l'agresseur, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'est M. Paul Kagame. Il oublie de noter également qu'il y a énormément d'efforts qui sont aujourd'hui consentis pour la construction des routes, grâce notamment au programme 245 territoires, un programme qui est très innovant et qui n'a jamais existé dans ce pays. Il oublie de mentionner le fait qu'il y a des routes de desserte agricole qui aujourd'hui sont en réhabilitation grâce à un programme structurel porté par le ministère du Développement Rural, mais aussi financé par le gouvernement via le ministère des Infrastructures. Il oublie également de mentionner qu'aujourd'hui l'insécurité urbaine est maîtrisée par des programmes qui permettent de pouvoir éradiquer le phénomène Kuluna.
Sur le terrain, sur le plan sécuritaire dans le territoire de Beni au Nord Kivu, au moins 7 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux rebelles de ZADF la nuit de dimanche à ce lundi à Matombo. On déplore également de nombreux blessés ainsi que des maisons incendiées. Selon des sources administratives dans la région, l'armée est intervenue pour limiter les dégâts. Guylaine Kassassia.
Selon le bourgmestre adjoint de la commune d'Ouicha, c'est vers 19h heure de l'Est que les rebelles des ZADF munis d'armes blanches et à feu ont fait irruption dans la localité de Matombo à 3 km au nord d'Ouicha. Ils ont d'abord tué 3 personnes dans une huilerie de la place, puis 3 autres dans leur maison. Une personne parmi les blessés de cette attaque a succombé de ses blessures ce matin à l'hôpital général de référence d'Ouicha. Les mêmes sources ajoutent que ces rebelles ont également incendié 3 maisons d'habitation et blessé plusieurs autres civils. Ces derniers suivent actuellement des soins à l'hôpital général de référence de Ouicha. D'autres civils ont été enlevés par ces rebelles et emmenés dans une destination inconnue. Cette attaque a provoqué un déplacement de population. Ce matin, la panique était totale dans la zone, selon nos sources. Le bourgmestre adjoint de la commune de Ouicha condamne cette attaque qui intervient un mois après celle qui avait ciblé la localité voisine de Tenambo et coûté la vie à 9 personnes, tout en saluant l'intervention de l'armée qui a limité les dégâts. Jean de Dieu Kibouane a demandé aux FARDC de renforcer leur position dans les localités qui ont déjà subi les attaques de ces rebelles et qui reviennent régulièrement. Nous n'avons pas eu la réaction de l'armée. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Toujours au nord Kivu, 23 soldats des FARDC comparaissent depuis ce lundi devant le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant en audience foraine à Lubero Centre, à au moins 50 km des lignes de front. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ces soldats qui combattent les hommes du 1-23 dans le territoire de Lubero sont poursuivis entre autres pour violation des consignes, désertion, fuite devant l'ennemi, vol et tentative de viol. Le procès va durer 2 jours. Les fils de l'Ituri qui ont pris les armes contre leurs propres frères doivent revenir à la raison pour que la paix soit effective après 7 ans de conflits armés dans l'Ituri. Cet appel est lancé par le président du caucus des députés de l'Ituri, Floribert Ndjabou, dans un communiqué de presse rendu public hier à Bunia à l'occasion des festivités de fin de l'année. Il demande également au gouvernement de redoubler d'efforts pour faire face aux ennemis de la paix. Floribert Ndjabou ajoute que la population a déjà tant souffert des affres de la guerre. C'est un condensé d'Isaac Remo rendu par Nozaya Masiki.
L'année 2024 n'a pas été rose en Ituri, marquée par les violences des groupes armés aux multiples conséquences. Meurtres, dégâts matériels, déplacements des populations dans les territoires de Djougou, Mambasa, Irumu et Maagi, a déclaré le président du caucus des parlementaires de l'Ituri, Floribert Ndjabou. Pour mettre fin à la persistance de l'insécurité en Ituri, il encourage l'approche des dialogues communautaires, notamment à Djougou, épicentre des tueries par les groupes armés locaux. Le gouvernement doit aussi utiliser la force contre ceux qui résistent au processus de paix et mettre des moyens logistiques, financiers et humains conséquents en vue de faire face aux ennemis de la paix, a-t-il ajouté. Floribert Ndjabou demande aussi à ceux qui portent illégalement les armes et leurs manipulateurs de revenir à la raison. Il a dit, je cite, que les nuits de ces derniers jours de l'année leur portent conseil et de marteler que l'Ituri a besoin de la paix pour son développement en profitant de ses ressources humaines, naturelles, lacustres, agricoles, pêche et élevage. Il appelle toutes les communautés à vivre en cohabitation pacifique et aux leaders communautaires de poursuivre avec cet élan des sensibilisations pour la paix qui est le cheval de bataille des parlementaires de l'Ituri.
L'intégration des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme dans le cursus des formations de la police nationale congolaise. C'est le thème de la table ronde organisée vendredi et samedi dernier à Kinshasa. Parmi les participants figuraient les formateurs de l'École nationale de formation de la police, les membres de la commission chargée de la réforme de la police, les experts de Justicia Asbel et la fondation suisse DICAF. Selon Maître Timothée Mbouya, membre de la société civile du Haut-Katanga et président national de l'ONG Justicia jusqu'à Asbel, basé à Lubumbashi, 5 modules ont été dispensés. Il s'agit notamment du rôle et de la responsabilité de la police des mines, la protection des personnes vulnérables et le travail des enfants, ainsi que de la prévention et de la réaction aux violations des droits de l'homme. Maître Timothée Mbouya est au micro d'Alain Hirong.
Il a donc été pour nous une occasion de remettre entre les mains du commissaire général de la police nos 5 modules qui doivent être examinés par les experts de la police en commission en vue de dégager les éléments essentiels qui doivent être insérés dans le cursus de formation de la police. L'objectif, c'est d'outiller tous les éléments de la police à travers la République démocratique du Congo sur les notions essentielles des droits de l'homme et des sécurités dans les industries extractives. Ceci pourrait également contribuer à ce que les policiers qui sont détachés pour la protection des mines et la protection des communautés riveraines puissent se comporter de manière à ce que les violations des droits de l'homme soient très sensiblement diminuées. Cela va également impacter le comportement des investisseurs internationaux qui hésitent à venir parce que estimant qu'il y a des violations des droits de l'homme sur les sites miniers en République démocratique du Congo.
Un lot important de vivres et non-vivres a été remis à la prison centrale de Kindu-Maniema par la société minière TSM. Selon les responsables de cette entreprise, c'est pour permettre aux détenus de célébrer la fête du Nouvel An dans la sérénité. Florence Kizalunga.
Le prisonnier de Kindu sont émis de voir dans l'enceinte de la prison toute une vache à leur faveur offerte par la société minière TSM. Au nom de tous les détenus, les directeurs de la prison remercient la société TSM, Victor Kankolongo.
En tout cas, nous sommes très heureux de voir ce geste qui va réconforter nos frères et sœurs qui sont en détention. Ils sont là, ils ont droit à la vie. Pour nous, c'est un message que nous allons devoir donner aux autres qui doivent aussi emboîter le pas. La Bible dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas assisté. Aujourd'hui, la société TSM a pensé aux prisonniers. Donc, c'est pour nous une grande joie que nous disons infiniment merci.
Pour la société TSM, ce geste n'est qu'un acte de générosité. Adrien Ibrahim est son point focal.
La société TSM n'a pas voulu fêter celle. C'est pourquoi nous sommes venus accompagner nos frères et sœurs qui sont incarcérés dans la prison ici, avec le vivre et que nous allons fêter ensemble avec eux, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise, en sachant qu'ils ont des frères à l'extérieur qui sont de cœur toujours avec eux.
La prison centrale de Kindu, construite avec une capacité d'accueil de 150 détenus, en compte plus de 500 à ce jour, selon ses responsables. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En Ituri, plus de 450 enfants orphelins issus des 4 communautés tribales sont initiés à la culture de la paix et de cohabitation pacifique. C'est dans le cadre d'une retraite de 2 jours organisée depuis ce lundi par l'ONG Beacon of Hope à Bagoro, localité située à 25 km au sud de Bunia. Selon le coordonnateur de l'ONG, l'objectif de cette activité est de combattre la haine tribale qui est souvent à l'origine des cycles de violence en Ituri. C'est un reportage d'Isaac Raymond rendu par Stanislas Diomi.
Ces enfants orphelins issus des communautés Lendu, Bendi, Emma et Bira sont venus de différentes localités Kavelega, Kotoni, Bogoro, Lakpa, accompagnés des notables et leaders religieux de leur entité respective. Ils apprennent des notions sur le vivre ensemble, la culture de la paix et de la non-violence. Pendant ces 2 jours de retraite, ils mangent, jouent et dorment ensemble pour renforcer le sentiment de fraternité malgré leurs différences culturelles. Le coordonnateur de l'ONG Beacon of Hope indique que cette action a pour but de briser la haine tribale transmise d'une génération à une autre, laquelle est à l'origine des cycles des violences en Ituri. Professeur Arali Bagamba.
Les conflits, nous voyons en Ituri, qui engagent les communautés les unes contre les autres, on transmet d'une génération à une autre la haine qu'on a vis-à-vis de l'autre communauté. Donc nous voulons combattre la transmission intergénérationnelle des conflits ethniques. Donc c'est ça notre objectif suprême.
D'autres rencontres sur la culture de la paix et de la cohabitation pacifique impliquant de jeunes et des élèves de ces différentes communautés ont été organisées il y a quelques mois par cette même organisation.
Le corps des chercheurs de l'Observatoire vulcanologique de Goma est une nouvelle structure mise en place par les agents de l'OVG. La décision a été prise au cours d'une réunion vendredi dernier à Goma, alors qu'une crise persiste dans le fonctionnement de cette structure basée à Goma au Nord Kivu. Après 12 mois sans primes spécifiques, ces agents poursuivent toujours leur grève. Le corps des chercheurs vise à maintenir le service minimum et à assurer un plaidoyer en faveur des agents. Toutefois, le président et porte-parole de ces chercheurs dénonce le refus du comité de gestion de l'OVG de leur accorder accès au bureau de la direction, surtout en ces jours où les volcans Nyiragongo et Nyamulagira ainsi que le lac Kivu ne sont plus surveillés. Pascal Matamba le dit au micro de Bernard Nyangi.
Nous nous sommes posé la question sur le pourquoi du non-paiement de nos primes spécifiques depuis le mois de janvier 2024. Nous nous sommes dit d'abord, nous nous organisons comme chercheurs pour mettre en place un cadre d'échange en tant que chercheurs que nous avons dénommé corps de chercheurs de l'OVG. Et la grande mission, c'est d'abord d'organiser des réunions, ensuite recueillir toutes les revendications des chercheurs régulièrement et les canaliser vers les instances officielles établies. Cependant, au sein de l'OVG, malgré le mouvement de grève décrété depuis le 30 mai 2024 et qui continue, un service minimum était opérationnel, mais le comité de gestion a donné l'ordre d'interdire aux chercheurs d'accéder dans l'enceinte de l'OVG. Et nous nous sommes dit, les volcans restent dangereux pour les populations, mais aussi les gaz du lac Kivu. Kivu aussi n'est pas bien suivi.
Actualité internationale.
La police kényane a tiré ce lundi des gaz lacrymogènes et a arrêté avec violence des dizaines de manifestants. Ils protestaient pacifiquement contre une nouvelle vague d'enlèvement des jeunes opposants qui suscite l'indignation dans le pays. La dernière vague d'enlèvement qui fait le gros titre au Kenya concerne principalement des jeunes hommes ayant critiqué le président William Ruto sur Internet. Deux d'entre eux avaient publié une image générée à l'aide de l'intelligence artificielle du chef de l'État allongé dans un cercueil. La commission national des droits de l'homme du Kenya a recensé la semaine dernière 7 cas d'enlèvement signalés ce mois-ci, parmi lesquels 6 se sont toujours portés disparus. Au total, 29 des 82 personnes disparues recensées depuis le mois de juin sont toujours introuvables. Acculé par les défenseurs des droits humains et plusieurs figures politiques, le président Ruto a promis vendredi de mettre fin aux enlèvements.
L'invité.
Boniface Kabongo est l'invité de ce journal. Il est le député provincial élu de la ville de Kalemie. Il revient sur sa question orale adressée au ministre provincial de l'Intérieur. Le ministre était attendu à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour s'exprimer au sujet de la recrudescence du banditisme urbain à Kalemie. Mais cette question a été reportée à la session de mars prochain. Boniface Kabongo s'entretient avec Paulin Mounanga.
Honorable Boniface Kabongo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez adressé une question orale avec débat au ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. En quoi consiste cette question?
Nous avons adressé cette question, c'est par rapport à l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kalemie et sur toute la province du Tanganyika. Et on voulait que le ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer.
Quels sont les faits que vous avez pu constater dans la ville de Kalemie, des faits concrets en rapport avec cette situation du banditisme?
Les faits sont tellement nombreux. On tue chaque jour, on vole chaque jour, on viole chaque jour, on brûle les maisons, on détruit les maisons. Aujourd'hui, là, je vous dis, ce sont les écoles qui sont ciblées. Même l'école du ministre de l'Intérieur lui-même a été ciblée par des bandits en pleine journée. Alors, ce sont des faits que nous, on a trouvé étranges et que le ministre devrait nous expliquer. Alors, c'est pourquoi nous, on a adressé une question au ministre de l'Intérieur qui a la sécurité dans sa charge. D'essayer un peu de nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on dort plus. On a volé même les jours où le président de la République était dans la ville. On a volé. On a volé même le voisin du ministre de l'Intérieur, mais armé. C'est comme si on a volé chez le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, là, on a tiré à 20 mètres de la résidence du gouverneur. Maintenant, on a adressé la lettre au ministre de l'Intérieur pour nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes en train de ramasser chaque jour des gens brûlés. Vous vous réveillez le matin, on a brûlé quelqu'un. Oh, c'est un voleur. Vous vous réveillez demain, on brûle de l'autre côté. Oh, c'est un voleur. C'est pourquoi on a initié la question pour que les ministres viennent s'expliquer, nous dire qu'est-ce qui ne va pas.
Aujourd'hui, c'était le jour de la plénière. Cette question était à l'ordre du jour, mais finalement, elle a été élaguée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si et seulement si nos députés qui se disent de la majorité pouvaient comprendre. On pouvait d'abord laisser le ministre s'expliquer.
Donc le ministre ne sait même pas expliquer.
Le ministre ne sait même pas expliquer. Il devait venir après pour dire non. Le ministre s'est expliqué. quand même, il y a ceci, il y a cela, faisons cela. Et ils pouvaient voter, ils sont majoritaires, ils pouvaient voter. La population a besoin des explications du ministre. Peut-être que le ministre a des arguments convaincants. Et la population aurait peut-être avoir quelque chose dans la tête pour dire non, s'il y a ceci, s'il y a cela, voilà les causes. Et le ministre nous a dit ceci, cela.
Qu'est-ce qui a fait assez que cette question soit élaguée finalement?
Moi, mon autorité morale, c'est la population qui m'a élu. C'est mon autorité morale. Je ne dois qu'obéir à ce que la population me demande de faire. Mais je ne suis pas dans l'Assemblée provinciale, dans l'hémicycle, pour défendre le mal parce que l'autorité morale a dit. Non, la question a été déposée depuis le 13 novembre. Vous comprenez que ça ne va pas, c'est pas comme ça que les choses doivent se faire.
Que dit le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika à ce sujet?
C'est dans le rôle des députés d'adresser une question orale. Et il ne peut jamais être arrêté par qui que ce soit. Il ne peut pas. Mais pourquoi ne pas autoriser au ministre de parler? Parce que c'est notre ministre. C'est le ministre qui a la sécurité dans ses attributions. Parce que le ministre a des réponses qu'il devait donner. Le ministre connaît les causes de cette insécurité. Le ministre est capable de se défendre. Pourquoi ne pas le laisser se défendre? Mais lorsque les députés disent non, on a pris le temps sans argument. Il faut prendre cette question et la remettre à la session de mars. C'est là où je n'ai rien compris. Mais la population est plus majoritaire que les 20 députés de l'Assemblée provinciale. La population, c'est elle qui nous a donné, nous, le pouvoir. Et c'est la population que moi, je prends en témoin.
Finalement, la question a été élaguée, la question orale. Et quelle est la suite? Donc, on peut attendre la remise de cette question à la session de mars.
La suite, c'est-à-dire, je suis député élu. J'ai la confiance de ma population. Ensemble avec la population, nous allons mener ce combat et nous allons lutter ensemble avec la population pour qu'on ait une solution et pour que cette insécurité, qu'ils veulent ou pas, nous allons savoir les causes de cette insécurité. Moi, je suis l'élu de la population, de la ville de Kalemie, et c'est le peuple qui gagne toujours.
Honorable Boniface Kabongo, je vous remercie.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Merci aussi à vous tous qui avez suivi le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsiala dans une coordination de Guy Maté et la supervision de Alain Irongo. Je vous retrouve à 19h, heure de Kinshasa, pour l'essentiel de l'actualité de ce soir.